avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, comment rendre une ville conviviale? Eh bien, on attend vos réponses, les voisines et les voisins. Avec des villes de plus en plus peuplées, bruyantes ou encore polluées, la convivialité peut-elle cohabiter avec toutes ces nuisances? Les deux tiers de la population mondiale devraient vivre en ville d'ici 2050. Mais dans les rues, les parcs, les terrasses, devant les bornes fontaines, quels aménagements pour que les citadins, travailleurs, étudiants ou visiteurs se croisent et vivent ensemble? Quel rôle pour les pouvoirs publics? Les voisines et les voisins, on attend vos témoignages de voisinage. Parlez-nous de votre quartier. Quelles sont les initiatives qui le rendent convivial? Les nouveaux lieux aussi où l'on aime se rencontrer, discuter, faire du sport. Appelez-nous surtout dès maintenant, n'attendez pas la fin de l'émission, au 33 7 64 45 51 41. Chantal Dekmin est avec nous dans le studio. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes architecte, urbaniste, anthropologue et vous publiez un livre extrêmement riche qui s'appelle « Lire la ville, manuel pour une hospitalité de l'espace public ». On sera aussi en ligne avec Léandre Guigma, architecte urbaniste, fondateur et co-gérant de l'agence Perspective à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Il travaille dans plusieurs villes du continent. Et je vous rappelle notre compte WhatsApp pour nous appeler en direct, 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins qui refont le monde avec 7 milliards de voisins.
Salut les 7 milliards de voisins, je m'appelle Ablaye, je suis sénégalais qui vit à Nouakchott, en Mauritanie. Et je me rappelle quand on était jeune, on vivait dans le banlieue dakarois, dans un quartier qui s'appelle Aïnouman 3. Là-bas à Aïnouman 3, on était vraiment dans une maison à ciel ouvert parce que tout le monde se connaissait déjà, on partageait tout. Tu peux manger là où tu veux, tu peux dormir là où tu veux sans problème. Tu peux aller partout, il n'y a pas de sens interdit. Et tu peux aller dans toutes les maisons sans problème. Tu peux rencontrer tout le monde sans problème aussi. On partageait tout dans les moments de malheur et de bonheur aussi. Contrairement à ce que je vois aujourd'hui, dans les quartiers d'aujourd'hui, où toutes les maisons sont fermées. Vraiment, quand je vois ce que les gens vivent aujourd'hui, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Et vraiment, c'est désolant, parce qu'il n'y a plus de partage maintenant. Je vous remercie.
Alors, comment rendre la ville conviviale? Vous êtes très nombreux à chercher à nous contacter sur ce sujet. Beaucoup de gens qui nous disent que c'était toujours mieux avant. Vous êtes d'accord avec ça, Chantal Dekmin? Que c'était plus convivial avant, moins fermé, moins...
On peut le dire comme ça parce qu'on le constate, mais je pense que c'est pas une question de avant ou après ou maintenant, c'est une question de forme de la ville qui nous accueille. Quand on est dehors dans la ville, dans la rue ou dans des espaces qui sont à tout le monde, on est accueilli. Je dirais que la ville est là pour nous accueillir et pour nous aider à être ensemble et à faire tout ce partage dont parle la personne. Donc cette ville, effectivement, elle est en danger aujourd'hui et depuis, disons, le milieu du XXe siècle, ouais, elle a beaucoup, beaucoup changé.
Ouais. La ville en général, vous dites, est en danger.
Oui, la ville, ouais, est en danger parce que elle a été, je dirais, à partir des années 50, prise en main, des années 1950, prise en main par des techniciens, par des statistiques, ouais, et elle a été désagrégée, c'est-à-dire qu'on en a fait des zones. Tout ce qui était le mélange et la rencontre qui se faisait dans les villes, maintenant on appelle ça la ville historique. Ouais. C'est devenu ancien.
Ville-musée, voilà. Et puis le reste, c'est pour les citadins ce qu'il en reste en tout cas, voilà, qui sont devenus des numéros. Bon, bah alors en tout cas, vous partagez un peu la question nostalgique d'Abdoulaye. Il y a une DAC aussi, est à Dakar. Elle nous dit « Notre capitale est sale, dépourvue de parcs, d'arbres. Notre océan est ceinturé par du bâtiment. » Bah, ça s'appelle la spéculation immobilière, hein, le front de mer. Pour la rendre conviviale, il faut commencer par donner aux gens l'envie de sortir. Est-ce que l'augmentation de la population dans une ville, mécaniquement, ça contrarie la convivialité ou pas ?
Si on laisse effectivement des condensations de population se faire, mais on n'est pas obligé de faire ça. Si on traite la ville, non pas à une grande échelle, mais à des petites échelles, on va faire attention aux choses, donner des proportions aux choses et des mesures qui sont...
Si on travaille par quartier.
Oui, même plus, je dirais par unité de lieu. On peut trouver qu'il y a des lieux qui vont ensemble. Une place, par exemple, ça peut faire une unité de lieu. Et au lieu de considérer, de travailler en urbanisme sur tout le quartier, on peut travailler juste sur la place et les angles de carrefour qui sont là.
Christian est à Kinshasa. Il faudrait créer un code écologique qui soit opposable à tous les citoyens. Je pense que la convivialité passe par une meilleure gestion de notre environnement, surtout dans la ville. Moussa aussi nous poste ce message du Tchad, N'Djamena, pour rendre une ville agréable et à vivre aux citadins. Un contrôle de la qualité de l'air et du flux des automobiles pour garantir un air pur est important. Et oui, on ne saurait effectivement dire le contraire. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Mais tout de suite, je vous propose d'écouter une initiative Système D pour rendre la ville conviviale quand le mobilier urbain, c'est-à-dire les bancs, hein, en gros, ne sont pas à la hauteur. Eh bien, il y a le phénomène qui était visible l'été dernier avec l'arrivée de la belle saison en région parisienne. C'est le retour des chaises de camping d'une célèbre marque française de sport. Notre reporter Charlie Dupio s'est rendu place Jules Vallès à Évry, à une trentaine de kilomètres au sud de Paris. Rencontre avec Souli et Djibril et leur chaise pliante.
Elle est toute simple, hein. C'est une chaise pliable. Elle est très portable, très maniable. Elle prend pas beaucoup de place. Et elle est très, 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 très confortable. De base, elle est faite pour la pêche. D'où le fait qu'elle soit aussi confortable.
Ah, c'est pour pêcher à la base.
Oui, normalement, ça, c'est les pêcheurs qui prennent ça. Nous, vu que les bancs, ils sont durs et que des fois, on reste quelques heures à discuter, au bout d'un moment, les fesses, là, ça fait mal. Donc, les chaises, on se sent beaucoup plus à l'aise dedans.
Elle est très, très, très confortable.
Vous voyez, là, il y a les accoudoirs.
Et il y a un porte-gobelet.
Voilà, exactement. Donc, le dossier, tout, on est à l'aise. Essayez.
Ok, je vais essayer.
Vous allez voir.
Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, on se tient bien. Voilà. Et surtout, effectivement, c'est mou en dessous.
Exactement, c'est ça.
J'aime bien.
C'est la première fois que vous essayez dessus ?
Bah ouais, c'est la première fois que je teste. Vous connaissez vous aussi ?
Ouais, bah bien sûr, c'est un phénomène qui a pris depuis moins 2-3 ans, on va dire, un truc comme ça. Et on en voit à peu près partout. Hein. Il y a même un rappeur qui a fait une chanson sur les chaises pliantes.
C'est ma chaise pliante, le maillage de billes.
Vu qu'on est à l'aise, on a l'impression d'être dans son canapé. Quand tu reçois quelqu'un dans ton canapé, bah directement, c'est convivial. Mais j'aurais pas dû peut-être le dire, hein, parce que maintenant il n'y en aura plus, tout le monde va aller l'acheter. Hein. Ah oui.
Et ça coûte combien une chaise comme ça ?
En moins de 15 euros, hein. 13-15 euros comme ça. Ouais.
Vous l'utilisez, là vous êtes assis dessus, vos amis sont assis aussi autour de vous.
C'est ça, on s'en sert, on en a chacun une pratiquement. Et dès qu'on reste assez tard et qu'on commence à tarder, bah... On voit que tout le monde va chercher sa chaise parce que ça commence à faire mal aux fesses, les bancs. Et ça nous permet de rester plus longtemps à discuter. C'est vraiment le point de rendez-vous, c'est la place. On fume la chicha, on a des discussions, des débats foot.
C'est surtout les débats foot qui animent ce genre de soirée, tout ça et tout.
Les matchs de la journée, les transferts. En général, quand on vient ici, c'est surtout pour rigoler, décompresser. S'évader du monde du travail et tout, quoi. Il y a certains soucis qu'on oublie, quoi.
Et vous, c'est quoi votre travail ?
Moi, je suis gérant des Domino's Pizza à Ivry.
D'une pizzeria
C'est ça, ouais.
Et vous ?
Producteur musical.
On est tous à peu près, il y en a pas mal qui ont monté leur boîte. Et sinon, ils travaillent la journée dans chauffeur-livreur, un peu de tout, quoi.
Vous connaissez depuis ?
Depuis qu'on a l'âge de comprendre qui est qui. Voilà. Depuis la maternelle, on est ensemble, en fait. On est né, bon, on n'est peut-être pas né ici, mais on a tous fait nos classes ici, quoi. Maternelle, primaire, collège, voire même lycée, toujours ensemble, quoi.
On est comme une famille ici, à peu près, on va dire.
Après, on a quand même nos vies de famille. Moi, à la rigueur, je suis là l'après-midi, mais le soir, souvent, je rentre chez moi, sinon, ma femme, ça fait barder, quoi.
Et justement, c'était quoi l'ambiance ici, pendant là, les différents confinements ?
Bah, souvent arrivé au couvre-feu, bon, la police elle venait, on devait tous rentrer chez nous, quoi.
Sur la place, on voit surtout des hommes, pas beaucoup de femmes qui restent, qui traînent. Comment ça se fait ?
Je me suis jamais posé la question, c'est vrai. Mes sœurs, elles sortaient de temps en temps, mais c'est vrai qu'elles étaient plus souvent à la maison que dehors.
On grandit à peu près tous pareil et tout, comme vous avez dit, on a des sœurs et tout, tout ça et tout. Et les filles, très vite, leur objectif, c'est d'avoir le permis et de s'exporter très vite, en fait. Dès 18 ans, il leur faut leur permis, il leur faut leur voiture pour aller sur Paris, faire truc du lèche-vitrine ou aller voir leurs copines ailleurs et tout, tout ça et tout. Je pense plus qu'ils se voient plus sur Paris ou autre. En tout cas, ils veulent à tout prix quitter leur là où ils ont grandi, en fait. Et nous, on n'est pas du tout dans cette optique. On est là avec nos potes et tout, tout ça et tout. On est bien.
Être dehors dans la ville aussi bien que dans son canapé, en fait, c'est transporter son salon dans le quartier. Je ne sais pas, Chantal Dekmine, je vous ai vu prendre des notes, être très intéressée par le reportage.
Ah oui, j'ai trouvé magnifique le sens des mots, la parole, le goût de la vie qui était présent dans ce reportage. C'était très beau.
On imagine à quel point les confinements ont dû être difficiles hein, voilà. Pour tous ceux qui ont l'habitude d'être dehors dès que le temps le permet.
Oui, mais ce qui est très beau, c'est que ça nous a permis de prendre conscience, en fait, de l'importance de
des autres.
Non, puis c'est notre milieu naturel d'être dehors aussi. Et là, ils ont dit des choses très belles sur le rapport du corps à la ville. C'est-à-dire que la ville, normalement, devrait prendre soin de nous, prendre soin de notre corps, nous proposer des bancs, en effet.
Et eux, qui ne fassent pas mal aux fesses. Hein.
Qui ne fassent pas mal aux fesses, mais c'est super important. Et effectivement, on a un peu affaire au contraire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une punition collective qui fait qu'on enlève les bancs. Et si on les enlève pas, on leur met de quoi être désagréable ou avoir trop chaud l'été, trop froid l'hiver ou avoir des accoudoirs qui empêchent de s'allonger.
Ouais. Alors il y a beaucoup de choses dans votre livre sur le mobilier urbain, hein, donc les bancs essentiellement. Vous le dites, des bancs parfois en métal, donc brûlants en plein été, glacial l'hiver si on a juste un jean pour s'asseoir. Des bancs qui empêchent de s'allonger aussi, hein, avec une espèce d'accoudoir au milieu. Bon, ça c'est le message agréable pour les sans domicile fixe. Et puis il y a aussi le sol aussi parfois qui empêche de s'asseoir par terre carrément. Il y a des photos où on montrait ça dans une ville italienne, une espèce de fer à cheval planté dans le sol pour empêcher de s'asseoir par terre. Il fallait quand même y
ou
penser.
Ou même de marcher à cet endroit. Quoi. Oui. C'est vrai que le mobilier urbain, enfin si on appelle comme ça, quoi, je dirais c'est tout le corps de la ville qui se propose au corps des habitants. Il est fait pour qu'on puisse rester là. C'est-à-dire, c'est très intéressant ce qu'ils disent aussi à propos des femmes qui sont mobiles beaucoup plus que les garçons, là, dans le reportage. C'est que aujourd'hui, on est plutôt poussé à circuler. Circuler, il n'y a rien à voir. Il faut passer, il faut sortir de là. Et on voit qu'on n'a plus trop des places, des rues. Enfin, ça devient plutôt des voies de circulation. Et le fait de pouvoir rester dans l'espace public, de rester dans la ville, être là, être vu, regarder les autres, pouvoir, comme ils le font, discuter. C'est vrai que ça demande des aménagements et d'avoir pensé, et d'avoir regardé comment faisaient les gens, observé lentement, à petite échelle, et de proposer.
Vous avez raison d'ailleurs de le souligner, parce que si c'est circulé, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de convivialité. Pour qu'il y ait de la convivialité, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on se pose un minimum. On peut se parler en marchant, mais enfin bon. Dans quelle mesure l'architecture, la construction conditionne les relations humaines? On parlait du mobilier urbain. Est-ce que vous voyez d'autres exemples qui font que tout d'un coup, on peut casser la convivialité avec juste un réaménagement d'un endroit très facilement?
Bien sûr, ils le disent très bien. Mais c'est-à-dire qu'on tend aujourd'hui, on le voit ici, hein, dans ce quartier-ci, à Issy-les-Moulineaux, on a une ville sans rez-de-chaussée. C'est-à-dire l'architecture, effectivement, et l'espace, ce sont nos conditions de vie. On n'en a pas d'autres.
C'est intéressant parce que vous nous dites ça, France Média Monde, l'immeuble est à Issy-les-Moulineaux. C'est vrai que ce n'est pas franchement une ville avec beaucoup de terrasses de café ou de choses comme ça. Pourquoi vous nous dites une ville sans rez-de-chaussée? Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire qu'il n'y a plus, par exemple, dans la ville constituée, dans la ville qu'on dit ancienne aujourd'hui, on a des commerces en rez-de-chaussée, on a des portes d'immeubles, on a des numéros de portes. On a eu un mal fou, il n'y avait pas le numéro ici pour trouver. Et ces aménités-là, ces petites informations simplement, quelquefois les plaques de rue manquent, le numéro. Et dans les rez-de-chaussée de la ville rénovée, je dirais de la ville de maintenant, on a les gaines techniques, des entrées avec de la vitre ou du miroir même.
On ne sait pas ce que c'est.
Ce qui est pire que tout, parce qu'on vous renvoie pas votre propre image, on ne laisse pas regarder dedans. Voilà. Tout cet échange qu'il y avait avec les rez-de-chaussée, c'est sûrement l'endroit où ils se mettent, eux, avec leur siège de camping. C'est sûrement à cet endroit où la façade arrive sur le sol et où on est tranquille, un peu à l'abri des autres et du passage.
Alors, comment rendre la ville conviviale? C'est à vous de nous répondre, les voisines et les voisins. 33 7 64 45 51 41. On prend un petit peu le temps de se poser, d'observer tout simplement la ville qui est autour de nous tous, le quartier. On donne la parole à Valdier qui nous appelle, je rappelle le numéro, 33 7 64 45 51 41. Valdier est en ligne avec nous. Valdier est à Brazzaville, au Congo Brazzaville. Bonjour Valdier.
Bonjour Emmanuel.
Valdier, vous avez 23 ans et déjà vous avez remarqué comme un problème pour rendre la ville conviviale chez vous à Brazzaville.
Oui, en tout cas ce que j'ai remarqué c'est que la possibilité pour rendre la ville conviviale serait de construire les maisons en hauteur. Parce que la conviviabilité, pour se faire, les gens doivent se rencontrer, doivent se côtoyer. Mmh. Et quand les gens vivent en hauteur, ça veut dire que on a tous des appartements et ça crée des relations entre les gens. Le matin, les gens se réveillent, se croisent. Oui. Il y a ce brassage entre les gens. Mais quand il y a la politique de la parcelle unique, le propriétaire construit sa maison, oui, il fait sa clôture. Et même ici, les clôtures sont en hauteur. Et tu peux passer un mois, deux mois sans voir ton voisin qui vit en face de toi.
Ah oui.
Pour pas sa maison clôturée.
Ce que vous voulez dire, avec les clôtures, on ne peut pas voir l'intérieur de la cour, l'intérieur de la parcelle?
Oui, les gens construisent des maisons avec des clôtures en hauteur et des fils barbelés en haut. Mmh. Donc, c'est compliqué de voir même son voisin qui est en face de soi.
Oui, oui.
Or, quand on est en hauteur, il y a ces liens, il y a ces relations, ces rapports qui se créent entre nous, qui vivent dans un...
C'est sûr que vous ne vous croisez pas dans l'escalier le matin. Alors, finalement, et du coup, vous trouvez que... Alors, c'est vrai que les villes africaines, de toute façon, sont très étalées et que tout le monde rêve d'avoir sa parcelle avec sa petite clôture, hein, de toute façon. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait, Valdier? Construire des immeubles ou comment créer de la rencontre avec cette logique de parcelle? Ah, Valdier nous a quittés. Bon, on l'a plus au téléphone. On a Achille qui nous appelle de N'Djamena, au Tchad. Bonjour Achille.
Bonjour.
Achille, vous avez 28 ans et vous notez une ghettoisation des quartiers à N'Djamena.
Oui, effectivement, nous assistons vraiment à une ghettoisation de plus en plus dans notre ville. Les hyper riches se séparent des moins riches et les pauvres se voient vraiment reculer dans les périphériques. Il y a aussi la question de religion qui est là, ça fait que les gens ils se retrouvent entre eux, essayer d'acheter les parcelles entre eux. Ça crée vraiment une déshumanisation considérable que nous constatons. Nous constatons dans les couches sociales ici à N'Djamena.
Oui, la religion, l'argent, pour séparer, pour couper la convivialité. Achille, vous êtes membre d'une association qui aide au quotidien les habitants dans un quartier de N'Djamena, je crois.
Effectivement. Je fais partie d'une association, là. Bon, en fait, un groupement de jeunes.
Oui.
Nous sommes, à la base, nous étions quatre. Et après, les amis nous ont rejoints parce qu'ils ont vu que notre cause était vraiment louable. Nous faisons en fait de la salubrité dans le quartier à Chagouaz du Carré 7.
Oui.
Et par exemple, à cette période de l'année-là, il pleut. Donc, nous essayons un peu de curer les caniveaux et essayer de colmater un peu les trous sur la route pour ne pas qu'il y ait des inondations par-ci, par-là.
En somme, vous vous substituez au pouvoir public.
Effectivement, c'est ce que nous faisons. Bon, nous n'attendons pas qu'ils viennent. On essaie de commencer et s'ils voient notre bravoure, notre engagement, peut-être qu'ils viendront nous soutenir.
Ouais. Et est-ce que cette bravoure, comme vous dites, elle crée de la convivialité avec les habitants à Chagoua?
Effectivement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent qui affluent, ils viennent nous encourager. Il y a les mamans du quartier qui nous préparent à manger, qu'on sort tout. Et puis, on ne voit pas la question de religion, ni il est riche plus que l'autre, non. Si tu peux venir nous aider, tu nous aides. Et on ne choisit pas un portail pour travailler, on ne choisit pas une concession. Dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas autour de la maison, ben on le fait de temps en temps et puis on va devant, quoi.
Ouais. Vous avez un message à faire passer, Achille, pour que peut-être la convivialité ne soit pas uniquement créée par les bonnes volontés et le système D?
Bon, le message que je pourrais passer, c'est qu'il faut que le pouvoir public essaie un peu de créer des centres de sport dans les quartiers. Comme ça, ça va affluer, ça fait affluer les gens. Ils ont un intérêt commun, une passion commune. Comme ça, ils ne voient pas le côté argent ou soit le côté soit les bibliothèques et qu'on sort. Comme ça, ça va les permettre de se côtoyer. Il y aura de la convivialité entre les gens.
Mmh. Sortir de chez soi, sortir de son micro-quartier et de son voisinage avec des gens tous pareils. Merci beaucoup.
Effectivement.
Merci Achille de nous avoir appelé de N'Djamena. Vous pouvez continuer de nous appeler au 33 7 64 45 51 41. Comment rendre la ville conviviale? Chantal Dekmine, vous avez un commentaire qu'on vient d'entendre?
Sur la première intervention, effectivement, on ne parle plus du tout de maisons côte à côte, hein, mais d'immeubles ou de pavillonnaires, hein, de maisons isolées et séparées par des clôtures et même avec des barbelés dans le
non, alors ça, la clôture, quand même, c'est vraiment un truc qu'on retrouve dans de très, très, très nombreuses villes du monde, hein, y compris en région parisienne, où on ne voit pas ce qui se passe. Et donc, c'est difficile de se saluer si on passe dans la rue et qu'on connaît un voisin. On ne sait pas qu'il est derrière sa clôture. Donc déjà, c'est vrai que ça freine.
C'est vrai qu'on a, après qu'on ait eu toute cette construction d'immeubles, de cités, etc., qui ont été dites des lieux invivables, on s'est lancé dans la maison individuelle et que la maison individuelle a été encore plus catastrophique dans la mesure où toutes les villes sont entourées comme ça de bandes, quelquefois complètement, on dirait des dessins ou des tampons de pavillonnaires et que ça détruit, il n'y a plus d'espace public, il n'y a plus de rue, il n'y a plus de lieu de convivialité possible même, parce que ça n'existe pas physiquement.
Bien chez soi, mais bien chez soi, est-on du coup bien dans la ville? C'est une vraie question. En tout cas, vous nous appelez pour rendre la ville plus conviviale, vous nous répondez, vous nous parlez de votre quartier, des initiatives qui le rendent convivial, les nouveaux lieux aussi, vous aimez vous rencontrer, discuter, faire du sport, 33 7 64 45 51 41.
Comme ça, tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien. Il y a des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien. Je me lève le matin, le cœur uni à l'univers, plexus solaire comme un refrain, tendre une pause sur mes calvaires, chant de rose dans ma tête, envie d'embrasser l'inconnu, penser à rien et appel. Même la météo m'a répondu. Le soleil brille sur Kinshasa. Le pas de danse est perdu. Allez, viens avec moi. Aujourd'hui, ma vie est arc-en-ciel. Même le bonheur, je l'entrevois. Il est tout fleur caramel. Il y a des jours comme ça. Tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien. Ça. Tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien. Il y a des jours comme ça. Tu es petit, tu quand tu es seul, tu es au thème. Tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien. Il y a
des jours comme ça.
Lokua Kanza, tout va bien chez 7 milliards de voisins sur RFI. Tout va bien, c'est vite dit. En tout cas, nous, on se pose la question aujourd'hui, comment rendre les villes conviviales? On en parle avec une architecte urbaniste, anthropologue, Chantal Dekmin, qui signe un livre « Lire la ville, manuel pour une hospitalité de l'espace public ». Vos appels, bien évidemment, au 33 7 64 45 51. 41, vous nous parlez de la vie de votre quartier, ce qui se dégrade, ce qui s'améliore, et si vous vous sentez bien ou pas, en convivialité avec les voisins. Et on est en ligne maintenant avec un architecte urbaniste, Léandre Guigma. Bonjour.
Bonjour, Emmanuel.
Vous êtes fondateur, co-gérant de l'agence Perspective à Ouagadougou, au Burkina Faso. Alors, il y a une heure, les auditeurs au Burkina Faso commentaient dans l'émission de Juan Gomez l'insupportable montée de l'insécurité, l'inaction du gouvernement vis-à-vis des attaques. Est-ce qu'on peut, dans ces conditions, évoquer la convivialité dans une ville capitale comme Ouaga, qui, certes, est épargnée par le conflit dans le reste du pays, mais ses habitants sont impactés psychologiquement ? Léandre Guigma nous a quittés. On a un petit problème de ligne téléphonique. Bon, je vais lui reposer ma question. Oui, Léandre Guigma, vous êtes bien en ligne avec nous ?
Je vous entends.
Ah, très bien.
Je vous entends.
Est-ce que
bien.
Vous avez entendu ma question ?
Pas la fin, mais j'ai entendu parler de l'insécurité.
Oui, d'accord, vous avez entendu parler de l'insécurité au Burkina Faso. Mais du coup, la question, c'était est-ce qu'on peut évoquer la convivialité dans une ville comme Ouaga ? D'accord, la ville est épargnée par le conflit pour le moment, mais les habitants sont impactés psychologiquement.
Tout à fait. Justement, l'espace public est le lieu des expressions, des libertés. C'est là où on manifeste. Donc, c'est l'expression des libertés. Mais c'est aussi le lieu de convivialité, c'est le lieu d'échange, de partage. Et on peut dire effectivement, malgré cette insécurité, ce sentiment de ras-le-bol lié à plusieurs crises, le terrorisme et même la Covid il y a quelques temps où on a eu le confinement nous aussi, oui. Eh bien c'est encore dans l'espace public qu'on a eu cette bouffée d'oxygène. C'est dans les premiers espaces à être occupés, c'était ce qu'on appelle les maquis, donc qui sont les bars où on va pour prendre une boisson et manger quelques grillades. Et surtout, ce qui est très intéressant qu'on peut constater, c'est au niveau des places publiques qui sont appropriées, des places qui avaient été aménagées sans fonction précise. Mais on remarque qu'à Ouaga 2000, qui est un quartier chic de Ouaga, il y a une place publique qui est le monument des héros nationaux, où tous les soirs, il y a la pratique sportive qui se fait autour de cette place. Hommes, femmes, tous jeunes et personnes un peu plus âgées, qui font du sport de façon quotidienne. Dans un quartier populaire, pas loin, il y a également le rond-point de la transition dans le quartier Bonheurville, où également cette pratique sportive se pratique de manière quotidienne tous les soirs. Et c'est vraiment un espace de sociabilisation au niveau du quartier.
On vient courir, y compris quand il fait nuit, pour les femmes ?
Alors effectivement, l'éclairage pose... je veux dire, il y a une nuance qu'on peut apporter avec l'éclairage. Lorsqu'un espace est très éclairé, il sera plutôt dédié pour, par exemple, apprendre ses études, apprendre ses leçons sous le lampadaire pour ne pas être dérangé dans les cours où il y a beaucoup d'enfants et où il y a beaucoup de bruit. Donc il y en a qui vont sous le lampadaire. Mais on a remarqué justement que pour que l'espace soit occupé par les femmes rondes, notamment... Elles aimeraient avoir un espace pas complètement sombre, mais pas trop éclairé non plus. Donc un espace éclairé où elles peuvent faire du sport, mais pas non plus trop éclairé, sécurisé, qui permet donc de ne pas être trop vu, de ne pas être dérangé, mais de pouvoir pratiquer le sport. En tout cas, au niveau des espaces que je vous ai parlé, on retrouve aussi bien des hommes que des femmes, mais je pense que c'est dû au fait que l'espace n'est pas trop éclairé. Il y a de la pénombre et c'est quand même des espaces sécurisés.
C'est ça.
Ce n'est pas complètement noir.
La sécurité pour les femmes, mais en même temps, il faut épargner ses complexes par rapport à son propre corps, hein, si je vous ai bien compris, Léandre Guigma.
C'est bien ça, c'est bien ça.
Vous restez avec nous surtout, parce qu'on a des auditrices qui nous appellent, à qui on pose la question de la ville conviviale au 33 7 64 45 51 41. On a en ligne Sarah qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Sarah.
Bonjour Emmanuel.
Alors vous avez entendu l'architecte urbaniste Léandre Guigma qui parlait du sport, du besoin de sécurité pour les femmes pour sortir dans la rue, faire du sport à la nuit tombée ou au crépuscule. Et vous, comment vous vous sentez dans votre quartier à Yaoundé ?
Bon, dans mon quartier à Yaoundé, ce n'est pas trop grave, mais il y a quand même un problème d'insécurité en soirée. Donc, les femmes, on préfère faire le sport en matinée de 6h pendant les dimanches jusqu'à plus tard 8h, 9h. Mais en soirée, il y a un climat d'insécurité.
Oui.
Il y a des zones, il y a des quartiers où on ne peut facilement circuler si on n'est pas accompagné, parce qu'il peut même arriver qu'on nous arrache le sac à main ou un téléphone et tout ça.
Et vous, en tant que femme, qu'est-ce que vous aimeriez pour avoir plus de convivialité dans votre quartier? Vous êtes où exactement, à Yaoundé, Sarah?
Oui, je suis au quartier Odja, on le dit. Voilà. Bon, dans mon quartier particulièrement, il n'y a pas beaucoup de points d'attraction. Hormis les bars qui sont presque toujours bruyants. Et bon, quelques pizzerias. Mais il n'y a pas beaucoup de points attractifs. S'il pouvait y avoir un peu plus, par exemple, des parcs, je crois qu'il y a un seul éco-parc. S'il pouvait en avoir un peu plus, ça pourrait permettre à ce qu'en fin de semaine, pour prendre un peu d'air, on peut se retrouver là et avoir peut-être des conversations avec des amis. Voilà.
Et sans forcément dépenser de l'argent en allant au maquis ou dans un bar, parce que là, il faut payer pour s'asseoir. Merci Sarah, merci à vous de nous avoir appelé. Malala nous appelle d'Antananarivo à Madagascar. Bonjour Malala.
Bonjour Emmanuel.
Et puis un petit coucou à tous nos amis qui nous écoutent dans l'océan Indien. Alors chez vous, dans la capitale, vous semblez déplorer finalement l'époque révolue où il y avait plus de convivialité?
Oui, c'est exact, parce que maintenant, les femmes ne sont plus en sécurité, notamment ici à la capitale. Surtout, en ce moment, il y a le vol des cheveux qui est très en vogue. C'est-à-dire que quand on porte les cheveux longs, il y a des gens mal intentionnés qui coupent les cheveux aux femmes et on se sent plus en sécurité nulle part.
Pour les revendre, hein, sur des trafics de cheveux naturels.
Oui, c'est exact. C'est ça, oui.
Et alors vous, qu'est-ce que vous aimeriez, Malala?
Moi, j'aimerais bien que les femmes ont la liberté de se déplacer comme elles veulent, sans crainte de se faire couper les cheveux ou de se faire agresser dans la rue.
Oui, ça semble assez incroyable hein, ce que vous racontez, Malala, mais effectivement, la sécurité, c'est quelque chose qui est régulièrement pointé dans pratiquement toutes les villes du monde, hein, les grandes villes en tout cas, Chantal Dekmine. Merci Malala de nous avoir appelé d'Antananarivo. La ville, elle est pas, la convivialité n'est pas perçue de la même façon quand on est une femme ou un homme dans une ville.
C'est-à-dire que, oui, dans la ville, il y a des questions d'insécurité qui apparaissent aujourd'hui aussi. Enfin, je veux dire, c'est de plus en plus présent, on en parle de plus en plus, ça fait vendre des caméras de vidéosurveillance. Et c'est vrai que la présence des hommes et des femmes dans l'espace public, elle a beaucoup évolué au cours de l'histoire, que ce soit en Afrique ou en Europe, en France aussi. C'est récent que les femmes soient, enfin c'est relativement récent, que les femmes soient dehors au même titre que les hommes. Et je crois que la question de... Il y a une très belle remarque qui a été faite sur la ville, sur la nuit. Cet enfant qui travaille sous le lampadaire, ou les femmes qui se mettent dans un endroit où c'est un peu éclairé, mais pas trop. Pardon. C'est vraiment toute la question de voir et être vu. C'est-à-dire que quand on est vu et qu'il y a des témoins, quand on a des témoins autour de soi, on est en sécurité, on est contrôlé d'une certaine façon, c'est certain, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais on est aussi en sécurité parce qu'on va être protégé s'il nous arrive quelque chose.
Et la convivialité, c'est forcément la sécurité. Léandre Guigma, vous nous l'avez dit, à Ouagadougou, bon, tout se passe quand même beaucoup dehors. C'est-à-dire qu'il faut se partager l'espace aussi. Hein. Quand il y a des grands événements, ça peut aussi se passer dehors.
Tout à fait, parce que c'est le prolongement de la cour. La rue, c'est souvent le prolongement de la cour. Et lorsqu'on a des événements malheureux ou heureux, que ce soit des baptêmes, des mariages ou des funérailles, c'est dans l'espace, c'est dans la rue qu'on accueille ses visiteurs lorsqu'on n'a pas suffisamment d'espace dans la maison. Et c'est un bel exemple de tolérance, de partage de l'espace public, parce que ben, à ce moment-là, les véhicules, les motos vont contourner cette rue qui est occupée. Mmh. Et ça se fait beaucoup. On remarque également les vendredis, certaines rues qui sont barrées parce qu'il y a la prière du vendredi et donc l'église étant petite, on déborde de l'espace de la cour de la mosquée, oui, pour occuper la rue. Les églises, c'est exactement la même chose. J'ai entendu parler de chaises. Et bien, beaucoup de chrétiens vont avec leurs chaises à l'église parce que l'église est petite et ils savent très bien qu'ils seront dans la cour de l'église à l'air libre pour poursuivre la messe. Et on a beaucoup parlé d'adultes qui occupent l'espace public, et parlant de conflits et de multi-usages, il y a également les enfants qui souvent sont négligés alors que, bon, ils ont besoin d'espace pour jouer et il n'y a pas suffisamment d'espace dans la ville aménagé pour les enfants. Et donc, c'est dans les rues qu'ils jouent au foot à certaines heures, justement, qui ne sont pas les heures où les adultes vont se retrouver pour discuter et manger. Et donc, ça permet un multi-usage de cet espace partagé qu'est la rue. Voilà.
Eh bien, vous parliez des enfants, ça tombe bien parce que Merveille nous appelle de Brazzaville et elle veut souligner aussi ce problème, l'accessibilité de la ville aux enfants. Bonjour Merveille.
Bonjour.
Vous avez 30 ans, vous êtes à Brazzaville et vous vous dites, il y a un problème, il n'y a rien pour les enfants à Brazza.
Il n'y a vraiment rien pour les enfants, je ne vois rien. Ma petite nièce, elle s'ennuie toujours chaque fois que je peux sortir avec elle.
Oui. Il y a des parcs quand même.
Ah non, c'est pas ça. On donne des dénominations assez grandioses pour ce qui n'existe pas.
C'est-à-dire?
Ben, on a un parc zoologique qui s'appelle parc, mais il n'y a pas d'animaux, par exemple. Il n'y a pas un parc ludique où il peut avoir des jeux pour s'amuser comme un Disneyland, ça n'existe pas.
Ouais. Bon, sans aller jusqu'à Disneyland, hein, parce que ça, c'est quand même pas à la portée de tous les quartiers, de toutes les villes, mais il n'y a pas de l'équivalent des installations sportives, par exemple.
Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Je ne parle pas d'assez, il n'y en a pas, en fait. Il n'y en a pas.
Merci en tout cas de souligner ce problème, Merveille. Merci de nous avoir appelé de Brazzaville. Léandre Guigma, vous avez fait vos études d'architecture à Lomé, une ville côtière.
Tout à fait.
Est-ce que vous trouvez que la plage, ça change tout pour la convivialité d'une ville? Parce que ce soit à Lomé, que ce soit à Dakar, le soir c'est bondé, on s'assied par terre, il n'y a pas besoin de mobilier urbain et tout le monde se retrouve, il y a de la mixité, les garçons et les filles, etc.
Bien sûr, la plage, effectivement, c'est un lieu privilégié, justement, de sociabilisation et puis de partage, de convivialité. Et nous, au Burkina et d'autres pays enclavés qui n'avons pas de plage, eh bien, on a des espaces similaires. On a un barrage avec des berges du barrage qui sont également appropriés, bon, malheureusement par des grillades et des maquis, mais on a quand même aussi de la maraîchiculture. Je pense que c'est aussi important d'évoquer cette pratique d'agriculture urbaine qui permet de nourrir la ville par la ville.
La ceinture verte autour de Ouagadougou.
C'est surtout au niveau des barrages, parce que la ceinture verte n'est pas suffisamment verte. Donc, c'est vraiment autour des barrages que cette pratique d'agriculture urbaine se fait, proche de l'eau, ce qui est tout à fait normal. Et bien sûr, le rêve serait que toute la ceinture verte soit également verte et soit dédiée à des espaces non seulement d'agriculture urbaine, mais aussi de convivialité pour permettre justement à tous les citadins de renouer avec la nature. Je pense que c'est un besoin réel que les citadins ont justement de rechercher des espaces naturels. Voilà pourquoi à la périphérie, tous les week-ends, on voit plus un mouvement vers les zones moins urbanisées où on retrouve des espaces aérés, ombragés et où beaucoup de citadins vont passer le week-end justement pour renouer avec l'espace naturel.
Restez en ligne avec nous, Léandre Guigma. Chantal Dekmine, on tourne un peu autour du pot sur le problème de la privatisation de la rue. On l'a vu d'ailleurs à Paris, en Europe, beaucoup de privatisation de la rue par les terrasses de café, les restaurants avec les déconfinements. On a autorisé les restaurants à élargir leurs terrasses, à créer des terrasses de toutes pièces sur le trottoir, ce qui fait que quand on marche, on marche sur le trottoir au milieu des tables et il y a de moins en moins de place pour ceux qui ne vont pas consommer, payer dans un restaurant, dans un café. Est-ce que ça va être une tendance lourde dans les années à venir, vous pensez, Chantal Descmines?
Je ne sais pas, je ne connais pas du tout l'avenir. Par contre, effectivement, ce besoin de pratiquer et d'être dans l'espace public, dont on a tellement, c'était tellement criant d'en manquer avec la pandémie, que quand ça s'est arrêté, les terrasses ont profité, je dirais, de tout cet amour d'être dehors. Et se sont étendues, plus que de raison, effectivement. Mais pourquoi se sont-elles étendues? Parce qu'effectivement, il manque les aménités ordinaires, les accueils ordinaires de l'espace public qui ont été supprimés, comme les bancs, par exemple, les toilettes, tous ces lieux, tous ces appuis, je dirais, qui permettent de rester dans l'espace public et d'y avoir, comme ça a été évoqué, c'est très intéressant, plusieurs usages qui se succèdent et non pas de dédier des lieux à des usages, ici le marché, là le parking, là le sport, etc. Donc de penser qu'une place, elle, aux heures du jour différentes, elle peut accueillir différentes activités, différentes pratiques. Mmh. Et c'est vrai que la nature tout autour de la ville et ce lieu-là aussi, la plage, les bordures de ville.
Qu'est-ce qui fait que, Chantal Descmines, une installation va être détériorée ou au contraire préservée par les habitants? Parce qu'on voit beaucoup de photos dans votre livre, évidemment, bon, beaucoup d'installations qui sont taguées, mais qui peuvent... Alors, les élus locaux se plaignent régulièrement. Ah, on a installé tel mobilier urbain, puis ça a été tout abîmé, cassé par les jeunes, etc. Comment on fait pour que les gens préservent ce qu'on a créé pour la convivialité?
Mais je crois qu'en premier, il faut créer de façon cohérente avec la pratique du lieu. Il faut regarder comment il est fait, regarder les lieux, non pas par grande parcelle, mais par unité de lieu, être dans le micro et regarder comment ça se passe pour répondre aux besoins qui sont là de façon cohérente et esthétique et belle, et faire en sorte que les personnes s'attache au lieu. En fait, on va abîmer un lieu quand on ne peut pas s'y attacher. Et cet attachement au lieu dans la ville, il est très très important pour la pratique de la ville et la pacification, je dirais, de la
ville.
Vous
êtes d'accord avec ça, Léandre Guigma? Si on ne crée pas l'attachement au lieu, il y aura de la détérioration, un défaut de soins par les habitants?
Je suis tout à fait d'accord. Hein. Vous m'aviez posé la question des plages. Moi, j'ai vu des plages à Conakry qui sont complètement désertes parce qu'elles sont occupées par des ordures plutôt que par des citadins qui peuvent en profiter. Et les initiatives pour un minimum d'aménagement, un minimum d'assainissement de la plage, ce n'est pas forcément la puissance publique. Moi, j'ai vu également des bons exemples par le milieu associatif, par des groupements associatifs qui, ensemble, aménagent, rendent la plage plus agréable. C'est la même problématique avec les espaces verts prévus par les lotissements à Ouagadougou qui, pour la plupart, sont des décharges, mais on voit également des initiatives d'associations qui décident donc de prendre soin de leur espace de proximité et puis donc de lui donner plusieurs usages, autres usages que celui d'une décharge, parce que vraiment, c'est plutôt nauséabond d'être à côté.
Oui. La délégation de la part des pouvoirs publics aux associations pour faire le travail des pouvoirs publics, donc ça peut aussi être une solution d'après ce que vous dites.
Tout à fait, tout à fait.
Et pour créer de la convivialité. Vous parliez de Cotonou avec la plage qui est particulièrement jonchée de détritus. On est en ligne avec un auditeur, ça sera le mot de la fin, ou presque, Élisée qui est à Cotonou. Bonjour Élisée.
Bonjour Manuel Bastide.
Alors vous voulez nous parler de la plage ou du manque de verdure à Cotonou?
Je vais vous parler du manque de verdure également, des espaces publics et des espaces d'attraction.
Oui.
Voilà, il faut déjà un plan d'urbanisation et d'assainissement qui respecte les normes et il faudrait que l'État veille au respect des plans lors des installations. Il faut des voies et rues bien tracées. L'aménagement des espaces verts, des espaces de divertissement. Par exemple, à Cotonou, il n'y a qu'un seul parc d'attraction ainsi que dans la ville de Porte-Nouveau. Il faut plus d'arbres dans nos villes. Vous savez, nous sommes venus voir la nature, donc on doit réserver des espaces pour la nature. Vous entendrez des espaces réservés pour les hôpitaux, pour des centres commerciaux, mais vous ne verrez jamais d'espaces réservés pour la nature. Donc en principe, on devrait avoir des espaces où il y a d'arbres, où quand on va, on a envie de faire une pause, respirer l'air libre. Et lors des constructions des routes, il faut prévoir les pistes motocyclistes et les piétons. Cotonou a toujours eu ce problème, mais après le décapissement en 2017, il y a eu le projet d'asphaltage des rues et ruelles. Ce projet prend en compte et les voitures, les motos et les pistes piétons. Déjà que le Béninois a envie de vendre au bord de la voie, et il y a des étagères qui sont installées sur les pistes piétons. Du coup, quand vous circulez dans la voie, dans la ville de Cotonou, vous avez du mal à emprunter les pistes qui sont réservées aux piétons. Donc déjà, si dans les constructions des voies, des rues, on peut aménager des espaces pour les cyclistes, les motocyclistes et les piétons, je crois que cela y va de vivre ensemble également.
Ouais.
L'autre problème qu'il y a à Cotonou également, c'est la construction anarchique des immeubles. Et le non-respect des niveaux d'étage.
Ouais.
Vous verrez des gens qui vivent à l'étage sur des immeubles et des gens qui se retrouvent au rez-de-chaussée. Il est difficile pour celui qui est au rez-de-chaussée, par exemple, de se mettre à l'air libre chez lui. Celui qui est à l'étage observe de loin déjà celui qui est au rez-de-chaussée. Alors qu'il y a des zones qui sont des cités dortoirs qui sont réservées pour dormir. Donc, en principe,
faire cohabiter tout le monde, hein. Je crois qu'on a bien compris. Merci pour cette description à la fois très précise et un peu chaotique, hein, de la ville de Cotonou. Merci Élisée, à vous. Et puis merci surtout à vous tous, les voisins et les voisines, pour vos messages, parce que c'est vous qui apportez la convivialité dans l'émission. Merci à vos expertises, Léandre Guigmar, architecte urbaniste, fondateur et co-gérant de l'agence Perspective à Ouagadougou au Burkina Faso. Et merci à vous, Chantal Deck, architecte, urbaniste, anthropologue, il faut vous lire. Lire la ville, manuel pour une hospitalité de l'espace public. Et c'est publié à La Découverte. Énormément de photos, notamment des reconversions de lieux. Tiens, les voies ferrées qui deviennent des jardins pour déambuler et pas seulement passer très vite, parce que sinon on ne peut pas se rencontrer. Hein. Merci beaucoup à vous. Chantal, demain, 7 milliards de voisins, les jeunes en recherche d'emploi, toutes vos questions à nos spécialistes. CV, entretien d'embauche, négociation salariale, évolution de carrière, c'est le moment de nous contacter dès maintenant, surtout au 33 7 64 45 51 41. I walk in the city, see people dealing with this reality. Their lives are empty. I feel hearts, bodies and souls. It's life, but we forgot the principal things. Love and unity. What's to say if I'm wrong or if I'm right? Just try to be good in the wide world. You are so busy, you can't hear. I hear the sound that opened my ears. I feel the rays of the sun shining. And I burn like a fire, roaring like a lion. Burn like a fire, roaring like a lion. Drift on with the flow, and the music in your soul. Listen to me, mama, now the chatting do you like. Smile, so I'm smiling, I'm singing louder. My voice is stronger. See you and I see me, your hand in my hand. We give each other strength to dream. What's to say if I'm wrong or if I'm right? Just try to be good in the wide world. You are so busy, you can't hear. I hear the sounds that open my ears. I feel the rays of the sun shining. And I burn like a fire, roaring like a lion. Burn like a fire, roaring like a lion. Autour de la question.